Fanfan Li, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est à Shanghai que vous avez été initiée à la peinture chinoise traditionnelle?
Oui, parce que mon père, un ami peintre, il était ministre de la culture de Shanghai. Et lui pratique peinture chinoise, aussi peinture aquarelle occidentale. Il s'appelle Shen Ruojian.
Il a été extrêmement important donc dans votre formation et votre orientation d'artiste.
Grâce à lui, ouvert la porte de peinture, je trouvais merveille faire la peinture.
C'est dans des livres que vous avez découvert la peinture occidentale, j'imagine.
C'est dans son bibliothèque, je vois plein de peintures occidentales, par exemple Michelangelo, Da Vinci, aussi Hang, David, Raphaël, Delacroix.
Et vous vous rappelez vos sensations à l'époque, quand vous avez découvert, en feuilletant les pages des livres, tous ces grands artistes de la Renaissance occidentale, quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu les images?
Je suis tremblée, émerveillée.
Et pourquoi?
C'est beau.
Eh bien, c'est beau, oui, vous avez raison. Alors, on revient à la peinture chinoise. Quels sont les fondamentaux de la peinture chinoise que vous pratiquez d'ailleurs encore aujourd'hui?
Pour la peinture chinoise, c'est important d'utiliser Hang de Chine, couleur pigment naturel, lié avec l'eau. On utilisait papier de riz et aussi la soie.
Alors, l'eau, c'est important dans la peinture chinoise. Sans eau, pas de peinture chinoise. Pas d'encre non plus, d'ailleurs.
Exactement. On utilisait l'eau pour faire la peinture couche par couche, superposée. Ça donne la transparence, ça donne la profondeur.
Alors, ce qui est quand même très difficile avec l'eau, c'est qu'on ne peut pas revenir sur ce qu'on a fait. Avec la peinture à l'huile, on laisse sécher, on recommence. La peinture à l'eau, on ne recommence jamais.
C'est vrai, la peinture chinoise demande assez bien réfléchir qu'est-ce qu'on voulait travailler. Et donc, c'est important de préparer mentalement avant de commencer.
Dans la préparation mentale, la méditation, ça joue un rôle. Est-ce que quand on peint, on ne fait pas un petit peu de méditation?
En fait, il faut rentrer dans la peinture. C'est comme un acteur rentrer dans son rôle.
Alors le taoïsme en tant que pensée de la transformation est à la source de la peinture chinoise et c'est important pour vous.
C'est important pour notre peintre chinois, penser la nature et penser la poésie en harmonie avec la nature.
Que vous ont appris vos maîtres chinois?
Quand j'ai appris la peinture chinoise, c'est utiliser le Hang de Chine avec un pinceau. Aussi, comment utiliser la couleur, le pigment. Après, c'est la couche par couche. Comment utiliser le pinceau, utiliser le lot.
Alors, quand vous dites couche par couche, ça veut dire qu'avec la peinture à l'eau, vous repassez plusieurs fois au même endroit.
Exactement. Parce que la densité de couleurs, on demande différemment. Par certains plus légers, certains plus foncés, créent la profondeur.
Alors ça, ce n'est possible qu'avec un certain type de papier.
Il faut certains papiers pour certaines peintures.
Et vous, vous utilisez plutôt le papier de riz.
Papier de riz, on dit chez Shu Xuan. Ça permet, couche par couche, travailler avec couleur et l'eau, ça donne la profondeur.
C'est plus résistant?
Oui.
Alors les Chinois n'attachent pas d'importance dans la peinture à la forme, alors que les Occidentaux attachent de l'importance à la forme.
La forme, ça dépend de quel type de peinture. On dit, chez Ai, pour moi, c'est plutôt abstrait. C'est plutôt montrer l'émotion, pensée. Pour Gombi, souvent c'est plus sur la forme.
Alors en Chine, l'art est plutôt du côté de l'énergie, du mouvant et de la respiration. C'est important finalement cette notion de respiration et de souffle.
Quand on utilise le pinceau, on respire profond. Après, on va commencer le pinceau.
Vous utilisez de l'encre de Chine et des pigments naturels. Pourquoi les pigments naturels? Qu'est-ce qu'ils ont de plus?
Je trouve le pigment naturel, ça donne la couleur plus lumineuse.
Alors, ce qui est beau en Occident ne l'est pas en Chine, où la notion de beau n'existe pas. Comment vous conciliez la notion de beau occidentale, puisque vous travaillez en France aujourd'hui, et cette notion chinoise qui est bien loin du beau?
Je trouve que beauté, c'est international.
Je ne suis pas sûre que vos maîtres chinois en diraient autant.
Je crois.
La fonction de la peinture chinoise, c'est de transmettre une émotion avant de représenter quelque chose. C'est de transmettre l'émotion de l'instant présent.
On voulait montrer notre émotion dans notre peinture et la poésie dans la peinture.
Avec la poésie, en Chine arrive toujours la notion de yin et de yang, et de vide et de plein.
En fait, dans le yin et yang, c'est toujours une paire de contrastes. C'est important de créer ce contraste.
Quels sont les artistes occidentaux qui vous ont le plus influencé?
J'aime beaucoup aimer la peinture de Odidon Rodon. Je trouve la couleur très beau.
Et il y a aussi Kandinsky et Turner que vous aimez bien.
Exactement, je trouve la lumière dans le Turner et l'abstraction de Kandinsky, c'est très très beau.
En tout cas, dans votre goût de la transparence, on retrouve bien Turner. Alors vous avez vécu 16 ans aux États-Unis. Comment vous avez senti cette scène contemporaine américaine bouillonnante, vous qui êtes une artiste venue de Chine?
J'habite New York 16 ans. Je trouve New York, c'est une vie très cosmopolitan. On peut trouver tout type de peinture à New York. Non seulement moderne, aussi classique. Peinture européenne, chinoise, japonais. Et on peut trouver tout à New York.
Donc finalement, c'est le paradis des artistes?
Je pense... Là, il y a tout pour tout le monde.
C'est vrai que c'est un peu l'Amérique, ça. Alors, le livre que vous illustrez aujourd'hui, La pérégrination vers l'Ouest, est un grand classique. Vous le connaissiez avant d'entamer ce travail?
La pérégrination vers l'Ouest, c'est un livre très connu, même les enfants. Je grandis avec l'histoire de la pérégrination. Il y a beaucoup de livres enfants, cartons.
Donc vous avez un très bon souvenir de ce livre et cette histoire ne vous a jamais quitté.
Exactement.
Donc du coup, vous étiez la personne idéale pour réaliser cette édition qui est un peu particulière. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez travaillé pour ce livre avec les éditions Les Heures Claires?
On voulait créer un livre de la pérégrination. On pensait à la moine Xuanzang, qui était dans la dynastie des temps, le 7e siècle. Ce voyage initiative, c'est très difficile. Le moine Xuanzang réalisait son rêve, aller passer la montagne, l'eau très difficile, atteindre l'Inde, chercher le sutra. Son courage nous fascine, et le paysage aussi.
C'est ce que vous avez voulu faire passer dans votre peinture.
On les voyage en même temps avec le moine. On voit le monde qui voit. On traverse cette difficile atteinte, le rêve.
Alors vous vous êtes mise dans la peau du moine pour faire ces illustrations.
Oui.
Ça fait quel effet d'être dans la peau du moine qui part de... Il est parti de où en Chine?
Il partit de Xi'an, passer le corridor ouest, aller à l'Inde.
En fait, il a pris la route de la soie.
Exactement.
Et vous, vous l'avez prise en pensée, vous l'avez prise d'ailleurs tout court, cette route de la soie un jour. Vous avez fait le voyage du moine.
J'aimerais bien.
En tout cas, vous nous emmenez sur les traces de ce moine avec un texte du XVIe siècle, ce moine du VIIe siècle, et vous nous faites arriver jusqu'en Inde. Votre illustration sur l'Inde est bien différente des illustrations qui ont précédé. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour travailler sur l'image de l'Inde?
L'Inde, c'est un autre pays, c'est différent comme la Chine. C'est beaucoup plus de pigments. Donc j'ajoute beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de lumière, leur inspiration de bouddhisme, bien sûr.
En fait, ce plus de couleurs, c'est pour l'illumination de la découverte du bouddhisme, plus que parce que la Chine est un pays moins coloré que l'Inde.
C'est vrai.
Fanfan Li, merci.